9h12 minutes sur France Inter et ses rues des entrepreneurs. Ce matin, l'impertinence pour sortir du conformisme.
Il faut imaginer autre chose, dit-on de plus en plus. Trop souvent, on cherche à retrouver la situation d'avant, comme si on préparait demain en regardant dans le rétroviseur. Alors, comment penser l'avenir ? L'impertinence pour sortir du conformisme, ce sera votre dossier aujourd'hui.
Rue des Entrepreneurs.
La crise actuelle révèle les dysfonctionnements d'un système, mais aussi et surtout la pression de la pensée unique. Nombreux sont ceux qui disent aujourd'hui « je vous l'avais bien dit », moins nombreux sont ceux qui l'ont réellement dit, et encore moins nombreux sont ceux qui ont entendu et écouté des points de vue minoritaires. Cette crise oblige à penser autrement, à laisser plus de place à ceux qui pensent différemment. La chasse aux idées reçues est ouverte et c'est une bonne nouvelle. Avoir raison seul contre tous, c'est difficilement tenable, mais lorsque tout le monde est d'accord, c'est suspect. Mettre la mondialisation en cause est-il pertinent? La course des entreprises pour la taille critique est-elle toujours justifiée? La lutte en France contre le CO2 est-elle elle aussi pertinente? Qui pouvait croire que le microcrédit, inventé au Bangladesh, aurait pu permettre de créer des entreprises en France et de faire gagner de l'argent aux prêteurs. L'impertinence pour sortir du conformisme, c'est le dossier de Rue des Entrepreneurs aujourd'hui.
Didier Hadès.
Dominique Dambert.
Bonjour. Il y a deux façons de regarder la mode. En observant, comme le plus grand nombre, la vie, ou bien en distinguant ceux qui l'ont fait. Et ceux-là sont par définition hors mode, bien sûr. Il est un fait certain que les points de vue dominants et à la mode sont souvent erronés. Mais il est vrai aussi que la mode, les idées reçues, exercent une pression telle qu'il est difficile d'exprimer des idées contraires. Michel Godet, professeur au CNAM, qui anime le Cercle des Entrepreneurs du Futur et qui a lancé, avec le soutien de plusieurs partenaires, dont le CNAM et le Centre National de l'Entrepreneuriat, le Grand Prix de la Réflexion Impertinente. En d'autres termes, il s'agit d'écouter les autres avant, éventuellement, de les renvoyer dans leur but. Michel Godet.
La crise actuelle est porteuse d'espoir parce qu'elle nous force à repenser nos modes de production dans le sens du développement durable, que je considère comme une opportunité, puisqu'il va d'ailleurs, et ça c'est, fait partie de ces réflexions impertinentes, il va dans le sens de la relocalisation des activités, cesser de produire des choses là-bas alors qu'on pourrait les produire ici pour les gens qui y sont, à condition naturellement qu'il n'y ait pas que les différences de coûts économiques, mais qu'on intègre dans le calcul économique les coûts en matière d'environnement, d'externalité, comme on dit, d'impact sur le CO2 et l'atmosphère.
Mais alors, ça veut dire, Michel Godet, qu'en cette période de crise et de rupture, il faudrait développer plus les idées anticonformistes ?
Alors, c'est effectivement ce côté, la chasse aux idées reçues, qui est d'ailleurs pas simplement un sport intellectuel amusant, mais qui est dans les entreprises, quand on intervient dans la réflexion stratégique des entreprises, dans les comités de direction, il y a toujours un atelier, non seulement sur les changements à venir, mais aussi sur les idées reçues qu'on peut avoir, car rien n'est pire que le conformisme qu'on peut avoir dans certains groupes. On est victime de ses propres clichés, qu'on entend dire « on n'a pas la taille critique ». Sous-entendu, il faut grossir, alors qu'en fait, quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a des entreprises plus petites et plus performantes. On entend dire que c'est la faute à la Voltaire ou la faute à la mondialisation, à la concurrence des pays à bas salaire. Alors, par exemple, quand on regarde les chiffres, on constate que l'Allemagne, qui aujourd'hui est la principale source de déficit industriel de la France, 40% de déficit avant la Chine, c'est l'Allemagne. Donc, c'est pas un pays à bas salaire, ce qui nous renvoie à nos choix, à nos organisations. On constate aussi que, malgré nos rigidités, qu'on dénonce, c'est des zones de progrès, on peut le voir aussi de manière positive. Eh bien, il y a des territoires en France où, je parle avant, il y a 6 mois encore, en septembre dernier, mais ils en sont pas très loin, il y avait moins de 3% de chômeurs. La Mayenne, on l'a évoqué ici même, ce qui montre bien que, quelles que soient les mutations externes, les contraintes, les menaces, il y a toujours une différence qui vient de ce qu'on appelle les facteurs endogènes. On a une part de responsabilité. Tout le monde est confronté aux mêmes contraintes. L'incertitude est la même pour tous, les ruptures aussi. Mais il y a ceux qui s'en sortent et ceux qui s'en sortent pas. Et d'ailleurs, on a couronné, dans ce cas du cercle des entrepreneurs du futur, on a lancé donc ce grand prix de réflexion impertinente sur l'innovation. sous-entendu, sur ce qui change hein, dans leur accès, sur le
développement. Innovation tous azimuts. Hein.
Oui, tous azimuts.
C'est pas lié aux nouvelles technologies.
Mais on l'a. Ah non, l'innovation tous azimuts. Il y a 80% des innovations qui ne sont pas techniques, hein, qui sont sociales, organisationnelles, financières, commerciales. Mais on a ciblé un petit peu sur le développement durable, sur les services, sur les entreprises, sur la création et sur les territoires, compte tenu des partenaires que j'ai rassemblés. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, si vous vous interrogez sur le réchauffement de la planète, vous êtes carrément victime d'un terrorisme intellectuel au sein de votre milieu scientifique. On vous fusille, on vous met dans le coin. Et donc on a voulu essayer de faire remonter ces gens qui étaient dans le coin. Et là, il y a un premier constat qui s'impose, c'est qu'on a eu du mal à avoir des jeunes chercheurs qui acceptent de prendre la plume pour s'exprimer de manière un peu plus, j'allais dire, moins scientifique, moins ésotérique, plus compréhensible par un grand public, pour dire voilà, dans l'état actuel des sciences. Parce que les jeunes, ils ont peur d'être repérés comme étant déviants, différents du courant dominant, donc de leurs pairs qui vont les juger, qui sont plus anciens. Et donc, ils restent dans le rang. Simplement, en voyant qu'on avait du mal à avoir des jeunes qui s'expriment de manière libre et impertinente, mais tout en restant pertinente, naturellement, et bien, ces jeunes-là, on s'est dit, pour qu'ils les encourager à sortir du bois, en quelque sorte.
Mais vous disiez, Michel Godec, il faut avoir plus d'impertinence, une réflexion impertinente, mais pertinente. Et pourquoi celle-là, ça marcherait mieux, finalement, que la réflexion conforme?
Parce que, quand tout le monde est d'accord, c'est suspect. On n'a jamais une vérité absolue.
Mais en France, vous trouvez que souvent, tout le monde est d'accord?
Non, mais...
Parce que tout le monde n'est pas d'accord en France, quand même, beaucoup.
Les choses dont on parle dans les médias, sur lesquelles éventuellement je ne suis pas d'accord, ne sont pas nécessairement les choses les plus importantes. Et donc, ce qui m'a toujours intéressé en prospective, je rappelle que la prospective, c'est une manière d'éclairer l'action présente à la lumière d'un projet futur. Et en prospective, j'ai constaté qu'on ne posait pas suffisamment les bonnes questions. Il n'y a pas de bonne réponse à de mauvaises questions. Et donc, ça fait partie de l'impertinence de dire, arrêtez de vous battre, savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur la réponse à telle question, ce n'est pas la bonne question de toute façon. Donc, se poser les bonnes questions, un problème bien posé collectivement aussi, ça fait partie de bien poser problème, est à moitié résolu. On se rend bien compte qu'on ne rentrera pas, on est dans le 21e siècle, mais on ne le réussira pas. Si on ne remet pas en cause certains modes d'organisation et de comportement, y compris la manière dont les problèmes sont posés. Donc je pense qu'il faut laisser la place à des gens qui posent des questions différemment, qui n'apportent pas les réponses aux questions que tout le monde se pose en se battant, j'ai raison, t'as tort, etc. On écoute la différence. Et ce qui m'inquiète vis-à-vis des questions comme le réchauffement et autres, c'est justement ceux qui pensent différemment ne sont pas suffisamment écoutés. Au contraire, ils s'auto-censurent parce qu'ils ont peur d'être rejetés.
À la fin des années 90, est apparue l'expression « glocal », compression de « global » et « local ». Il faut, disaient certains, et c'était la pensée dominante, penser global et agir local. Sauf que le global, c'est-à-dire la mondialisation, a mis au second plan le local, c'est-à-dire la proximité, les territoires. Pourtant, les politiques pour encourager le développement local ont toujours été actives, notamment depuis le début des années 80. Mais au fil du temps, la fascination pour le mondial a effacé les atouts des territoires et leur capacité à conjuguer intérêts économiques et cohésion sociale. Marjorie Jouan conseille l'association Notre Europe, qui est un laboratoire d'idées. Elle a reçu le Grand Prix de la réflexion pertinente et impertinente du Cercle des entrepreneurs du futur en 2008 pour son étude sur le développement local endogène, parents pauvres, des stratégies de développement, dans lequel elle montre notamment qu'il y a aujourd'hui une opportunité à saisir pour valoriser et favoriser les initiatives locales en Europe. Marjorie Jouan.
Est-ce qu'on sait que finalement le Festival des Vieilles Charrues, c'était au démarrage un tout petit projet de développement local rural qui a été soutenu par l'Union européenne? Il y a plein d'expériences en Italie, en Espagne, de valorisation de filières qui étaient initialement agricoles et qui ensuite sont devenues des filières d'excellence sur le plan de la technologie agroalimentaire, mais pas seulement.
Et quels sont les pays qui ont le plus d'initiatives, à votre avis, en Europe?
C'est souvent les pays qui ont une capacité à générer un développement régional fort et surtout un capital social fort. Alors, on a des exemples différents, c'est-à-dire que les pays du Sud, clairement, il y a une très forte richesse du côté de l'Espagne, du côté de l'Italie. Même chez nous, finalement, dans le sud de la France, il y a beaucoup d'expériences. Au-delà des expériences, je dirais, il y a des réalisations. Et souvent, l'avantage des pays où il y a une décentralisation assez forte, c'est qu'il y a un soutien des autorités municipales, mais souvent des autorités régionales. Il y a également des choses intéressantes qui se sont passées dans des pays tels que la Suède ou la Finlande, qui, elles, étaient plutôt dans l'idée qu'elles devaient aider leur population dans les zones les plus défavorisées, les plus lointaines, finalement les plus nordiques. Et c'est à partir finalement d'une reconversion et des atouts de leur niveau de vie liés à l'existence des services publics, ils se sont beaucoup développés. Et souvent, ce qu'on voit, en fait, c'est que cette dynamique va de pair avec une décentralisation assez forte et avec une envie de coopération. C'est-à-dire, ce qui se passe souvent, c'est que ce sont rarement des territoires qui travaillent seuls pour que les initiatives démarrent, pour qu'on puisse faire du développement local endogène. Il faut un sens très fort de coopération interne au territoire, puis un sens aussi de la stratégie, mais aussi souvent, il faut essayer de dépasser le territoire et donc se mettre en réseau. Et je dirais, ceux qui savent jouer le plus le réseau, c'est les Espagnols, les Italiens, les Autrichiens aussi, parfois les Britanniques, mais spécialement d'ailleurs, je dirais, c'est plus les périphéries, du style l'Écosse, le Pays de Galles. L'Irlande a joué aussi souvent dans sa phase qui était un peu moins orientée vers la globalisation, qui a beaucoup joué cette carte de la coopération.
Et la France, on reste encore trop centralisateur ?
Alors la France, elle reste quand même dans une logique de dépendance centrale. Et quand on compare, la capacité de mobilisation des régions est extrêmement faible sur le plan politique, sur le plan des instruments, par rapport à ce que peuvent faire les Länder allemands.
Mais surtout qu'il y a beaucoup régions. De disparités entre les régions françaises en plus.
Oui. Je dirais, elles ont des tailles différentes, mais en même temps, c'est pas forcément les moins dynamiques. Je veux dire que, bon, la Bretagne, par exemple, est-ce que c'est une très grosse région au niveau européen? Pas vraiment. Simplement, c'est une région qui pense son développement, qui réfléchit, qui se pense, je dirais, son développement à partir de ses personnes, à partir de ses entreprises. Une région comme Rhône-Alpes, est une région, finalement, qui a su surfer sur les différentes vagues et qui, et ça, c'est une chose qui est aussi un atout, c'est la capacité à pouvoir s'appuyer sur des entreprises de taille moyenne qui sont bien enracinées dans le tissu local. Et c'est vrai que bon, dans l'ensemble, certaines régions françaises sont beaucoup plus calmes, sont moins innovantes parce qu'elles ont, peu de moyens, elles sont souvent un peu plus rurales, c'est un fait, mais rurales dans un sens qu'elles n'ont pas vraiment fait une analyse suffisamment développée de leurs atouts finalement. Et finalement qu'elle dispose de peu de centres de technologie et d'universités, parce que ça c'est un élément fort. Il y a l'élément d'accessibilité qui n'est pas neutre, même si maintenant c'est plus une accessibilité en termes de nouvelles technologies que...
Que d'infrastructures routières, qu'on a d'ailleurs.
Qu'on a. En fait, il y a aussi on se rend compte qu'il y a des très bons succès en Europe qui sont liés à des zones qui sont pourtant très périphériques, mais les promoteurs d'entreprises, ceux qui ont réussi à se vendre, c'était sur Internet. Et donc, c'est vrai qu'on a peut-être aussi une capacité moindre à se projeter comme ça sur des nouvelles technologies.
Mais Marjorie Joannet, au moment où on pense et on parle de cette sortie de crise, où on essaye de trouver des pistes, en tous les cas, pour sortir de cette crise, vous pensez que la voie du développement local est une bonne voie ?
Ben, je pense qu'en tout cas, pour le développement local, c'est une opportunité, cette crise. Une opportunité un peu à revers. Dans le sens où je pense que la dérive à laquelle on est arrivé, c'est-à-dire de se dire que le développement local, c'était un peu une solution de dernier recours, une solution au rabais, est liée à une évolution de l'état d'esprit. Et donc je pense que de ce point de vue-là, aussi bien en termes de réflexion politique, mais aussi parce que la crise va abaisser notre seuil de rentabilité. Donc du coup, un certain nombre de projets qui pouvaient être considérés comme relativement coûteux en temps, coûteux en méthodologie, en ingénierie, ben, vont se retrouver des projets qui valent la peine. Et donc, en fait, ça, c'est plutôt une opportunité. Une opportunité aussi parce qu'on va, du coup, peut-être que la globalisation va laisser un peu respirer nos économies et finalement nous permettre de repenser aussi bien pour des raisons de changement climatique, de poids que la globalisation a, et ce mode de production a sur l'environnement, ça va nous amener à relocaliser, à aussi comptabiliser différemment ce qui était considéré comme de la richesse, en se disant que si on intègre les coûts environnementaux, ça va être aussi un fort incitant à se tourner vers des choses beaucoup plus locales, des circuits courts, et donc finalement montrer sous un jour un petit peu plus intéressant ce qui se passe au niveau local.
Qui connaît la fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme ? Une grosse poignée d'individus tout au plus, et c'est bien dommage. Mais est-ce si important que cela ? La Fondation travaille sur le fond et le long terme. Elle a de l'argent, beaucoup, celui laissé par son fondateur. Elle se donne le temps pour éclairer les visions, c'est-à-dire qu'elle ne court pas après le tapage médiatique. Pierre Calame, qui la dirige, constate que le cheminement d'idées nouvelles ne se vend pas comme un produit labellisé. Les maîtres mots de la Fondation, ce sont éthique, gouvernance, intelligence collective, en vivant en notre époque, bien évidemment, à savoir celle de la mondialisation et non celle des États. Et concernant l'économie, Pierre Calame observe que l'économie doit revenir à son sens étymologique. Oikos, le foyer, la maison, commune, et nomos, la loi, la règle. Pierre Calame, en fait, pose la question dans son essai sur l'économie, publié aux éditions Charles-Léopold Meyer, de l'adaptation de l'entreprise au monde de demain. Pierre Calame.
Depuis les années 80, si vous voulez, notre monde se caractérise par ce qu'Aristote appelait l'acratie. L'acratie, c'est un état où on sait ce qu'il faudrait faire et on ne trouve pas en soi la volonté de le faire.
Pourquoi ?
D'une part parce que les égoïsmes à court terme peuvent l'emporter sur la vision à long terme. Mais c'est aussi parce que nos modes de pensée et nos acteurs, nos institutions, tout simplement, sont inadaptés. Est-ce que ce qu'on a inventé au fil des siècles pour articuler du capital matériel et de la main-d'œuvre est adapté pour gérer à la fois cohésion environnementale, cohésion sociale et production de biens et de services?
Peut-être
rien
oui.
N'est moins sûr.
Vous dites rien n'est moins sûr, je dis peut-être oui pour apporter la contradiction,
bien
mais
sûr.
Parce que tout simplement, il n'y a pas un État qui ait dit, ou plutôt si cela y a eu échec en disant voilà comment il faut faire et voilà comment il faut organiser. Pour le reste, il y a eu une approche empirique et on a essayé d'organiser au fur et à mesure.
Oui, mais une approche empirique marche bien dans l'adaptation. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité, il y a eu quand même des sauts. Et mon hypothèse est qu'on est entré dans une phase de transformation systémique. Et là, l'empirisme ne suffit pas. On le voit très bien, si vous voulez, quand il s'agit de gérer la planète. L'empirisme a conduit à dire « ce qui existe, c'est les États ». Donc, au lendemain de la guerre, on crée l'ONU, on crée une association interétatique. Mais cette association interétatique, ce que certains appellent le syndicat des gouvernants, n'est plus du tout à l'échelle des interdépendances. Et donc à ce moment-là, il faut faire un saut, comme on a fait un saut dans le passé pour inventer la République. L'humanité a progressé par des sauts technologiques, des sauts institutionnels, des sauts intellectuels. Et puis entre ces sauts, il y a des longues périodes d'adaptation. Ce que je crois, en décrivant dans mon ouvrage ce que j'appelle la logique du centurion d'Astérix, c'est que, au mieux de ce qu'on peut faire avec nos institutions, on fait des petits progrès. Mais fondamentalement, on marche dans un train, dans la bonne direction, mais le train roule en sens inverse, 100 fois plus vite. À ce moment-là, c'est le problème de la direction du train sur lequel il faut travailler et la conception du train lui-même, tout simplement.
Mais est-ce que tout ça n'est pas parce qu'on vit, comme vous écrivez, sur un modèle du passé ?
Alors, on l'invente, curieusement, avec le modèle du passé proche. C'est-à-dire qu'il nous manque et la mise en perspective historique longue, et du coup la projection sur le futur lointain. C'est extrêmement typique pour l'État-nation ou pour l'entreprise, qui sont nos deux grands acteurs. Ils émergent quelque part entre le Moyen-Âge et le XVIIIe siècle. L'entreprise se développe au XIXe siècle, etc. Si on ne s'intéresse qu'au passé proche, voilà deux grandes institutions de nos sociétés qui ont l'air là depuis tout le temps et du coup pour tout le temps. Si par contre on reprend la perspective longue, qu'on se demande à quel moment la société, sous l'influence des moralistes, comme le montre très bien Albert Hirschman, à penser que dans les menaces qui existaient sur la société, le risque de l'accumulation était finalement le moins dangereux. On s'aperçoit que c'est un choix qui a été fait, que ce choix du modèle de l'avoir plutôt que de l'être, pour faire très bref, a été un choix fait lucidement à un moment donné, et pas du tout un homo economicus existant de toute éternité. Et on voit très bien, si on circule d'une société à l'autre, que ce qui est commun d'une certaine manière, d'une société à l'autre, au plan anthropologique, c'est le désir d'être aimé par les autres. Le désir de prestige, mais quand le prestige se manifeste par la prodigalité, le chef n'accumule pas. Et donc on voit que c'est une fausse anthropologie de décrire l'homo economicus comme l'homme de toute éternité. C'est un construit social et politique correspondant à une époque. De même, l'entreprise a remarquablement correspondu à l'époque du développement des sciences, des techniques, des machines, quand il a fallu combiner du capital matériel, donc il fallait financer, et des grandes quantités de main-d'œuvre. Et on voit que s'est élaborée lentement, au cours du XIXe siècle, une pensée sur l'entreprise. Que cette pensée n'existait pas au moment de la Révolution française, alors même que l'entreprise était en train de se développer. Au point qu'à l'époque, on a plaqué sur l'entreprise le modèle ou de la famille, ou de l'église, ou de l'armée. Parce que c'est des modèles qu'on avait en tête. Et on voit cette résistance, si vous voulez, du passé proche, peser sur la vision de l'avenir. Les gens sont convaincus que la grande entreprise multinationale a gagné de toute éternité, comme après la chute du mur de Berlin, on a dit c'est la fin de l'histoire. C'est évidemment des fadaises. Il faut se demander quels agencements institutionnels on va inventer en fonction de nos besoins d'avenir. Et on inventera de nouveaux types de formes. Et moi, je défends l'idée que, à ce moment-là, des formes territoriales vont s'inventer qui, étant mieux adaptées aux besoins du monde de demain que l'entreprise, vont très lentement et avec des tas de métissages remplacer l'entreprise.
L'impertinence pour sortir du conformisme. C'est le dossier de l'été de Rue des Entrepreneurs sur France Inter. Dominique Dambert, Didier Hadès.
La crise financière, économique, sociale, fait que l'on pointe un peu plus du doigt l'entreprise et ses logiques, ou ce que l'on croit qu'elles sont. Sommes-nous sûrs de nos affirmations? Les avons-nous analysées? Pas question, bien sûr, de nier les difficultés. En ce moment, pas question non plus de faire l'amalgame entre les 2 millions de PMI, PME et TPE et la poignée de grosses entreprises du CAC 40. Celles-là ont, entre autres, des discours philanthropiques qui prétendent corriger les déséquilibres sociaux et environnementaux. Mais pourquoi ces groupes réussiraient-ils là où les États ou les institutions internationales auraient échoué? C'est la question dérangeante posée par Cécile Robin, professeure des écoles, qui était étudiante en master d'histoire économique à Paris 1 Sorbonne quand elle a travaillé sur le CAC 40 et la privatisation de l'intérêt général, ce qui lui a valu le Grand Prix de l'impertinence 2009. Ça décape, ça fait réfléchir. Cécile Robin.
Qui, de toute façon, pourrait affirmer que les entreprises sont les mieux placées pour agir? Finalement, si on les critique tant, c'est bien que d'une certaine façon on reconnaît leur pouvoir. Or, chacun sait que le pouvoir découle, pour partie au moins, de l'assise financière. Évidemment, les entreprises sont extrêmement puissantes. Pas besoin de rappeler les liens entre ces entreprises et le monde de la politique pour comprendre ça. Chacun comprend bien que effectivement, dans certains domaines, elles sont capables de détrôner l'État. Donc il n'y a absolument rien d'impertinent là-dedans. Et je pense que plus on les critique et plus on reconnaît leur pouvoir, et finalement plus on leur demande d'agir. Et quand elles disent répondre à une demande, elles lisent sans doute entre les lignes, mais il me semble que la demande est là et que les gens qui sont dans la rue aujourd'hui expriment d'une certaine façon cette demande.
Quand l'universitaire, la fonctionnaire que vous êtes, s'est intéressée au cas des entreprises du CAC 40, ben on vous a fermé la porte au nez d'entrée de jeu.
D'entrée de jeu, oui. J'aurais du mal à dire qu'ils puissent avoir conscience qu'ils ont des choses à se reprocher. Cela dit, effectivement, ils n'ont même pas essayé.
Alors, ce qui est intéressant, Cécile Robin, c'est que on ne s'attend pas du tout à vous voir vous intéresser aux entreprises du CAC 40 et à la limite en prendre la défense. Qu'est-ce qui se passe?
C'est parce que les plus forts ont parfois aussi besoin d'être défendus par une tentative de mise en perspective et une bonne dose d'objectivité de temps en temps ne peut pas nuire. Le parti pris est clairement subjectif. Il ne s'agissait pas du tout de juger qui que ce soit ou quoi que ce soit, ni de prendre parti. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de camp opposé, qu'il y a une multitude d'attitudes possibles en la matière. Je pense simplement que, puisque certains ministères, je pense à la culture en particulier, mais l'éducation me suit largement, demandent même aux entreprises de participer à des partenariats. C'est-à-dire que finalement, ce sont presque les ministères eux-mêmes qui sont à l'initiative et qui ont propulsé les entreprises sur le devant de la scène. Donc si l'État de son côté demande, si la société civile demande, les entreprises répondent, ça me paraît normal. J'en fais pas l'apologie pour autant, simplement je constate, ce travail est un constat, pas une prise de position, que finalement tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisqu'on répond à des demandes précises, et ceux qui y répondent sont objectivement ceux qui ont le plus, disent-ils, de compétences et d'assises financières pour pouvoir le faire.
Mais vous êtes bien consciente qu'au bout du compte, votre constat, votre analyse, elle est impertinente.
Qu'est-ce qui est impertinent ?
De sortir du schéma général, des idées reçues.
L'idée reçue que l'intérêt général revient exclusivement à l'État est une aberration. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ça n'est pas du tout la mise à mort de l'intérêt général. C'est un glissement, un transfert d'attribution, de cadre d'expression de cet intérêt général. Il y a un double mouvement, on parle souvent de la privatisation de certaines institutions publiques. Il y a aussi un mouvement conjoint de publicisation de l'espace privé. Les deux sont complètement interdépendants et évidemment les deux mondes sont amenés à collaborer. Et il serait peut-être temps, s'il y a une impertinence, elle est simplement là, d'accepter que ces deux mondes ne sont pas forcément opposés, ennemis héréditaires, et que plutôt que de se complaire dans cette opposition binaire, on pourrait trouver des voies de collaboration sans pourtant vendre son âme au diable, pour le plus grand bénéfice de tous.
Après La démocratie en miettes, Pierre Calam vient de publier Essai sur l'économie aux éditions Charles-Léopold Mayer, dont il dirige la fondation éponyme. Essai sur l'économie et non pas économie, car économie, ce sont les règles, nomos, de la maison oikos. Voilà pour le cours de grec. Pierre Calam propose en fait de revisiter notre système de production et d'échange plus compatible avec les exigences d'une société durable. Pierre Calam.
Si vous voulez considérer qu'il faut économiser l'énergie et augmenter la quantité de travail, parce que la frugalité qui serait s'économiser le travail de l'autre, c'est une frugalité de repli sur soi. C'est une frugalité qui se fait au détriment de la cohésion sociale. La cohésion sociale se fait de toute éternité par les flux d'échanges entre les gens. À ce moment-là, il ne faut pas avoir un système qui appuie à la fois sur le frein et sur l'accélérateur. Vous dites d'un côté, aujourd'hui, il faut relancer la consommation, mais attention, il faut qu'on épargne la planète. Donc, on émet en permanence des messages contradictoires, puisque vous achetez l'énergie et le travail avec la même unité. La solution est évidente, c'est qu'il ne faut pas utiliser la même unité de compte. Quand vous utilisez une carte de fidélité dans un magasin, vous avez d'une certaine manière une monnaie qui est la réduction qu'on vous fait comme fidélité. Vous avez une autre monnaie qui est les miles que vous économisez sur les compagnies d'aviation qui vont vous permettre après d'acheter des nuits d'hôtel ou des voitures. Donc, avec l'informatique, on est déjà en réalité familier à manier une monnaie à plusieurs dimensions. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas avoir un système monétaire qui dit l'énergie est limitée. Donc, on ne peut que gérer une quantité globale de consommation d'énergie. Donc, ça veut dire quelque part des quotas négociables au niveau des individus. Et ça, c'est une unité monétaire. Puis une autre unité monétaire, qui est le travail qu'on achète. Et rien n'empêche de dire, vous avez un processus d'échange local. Prenons l'exemple de ce qui est développé au Japon avec le Furai Kippu, qui est un système de comptabilité du travail consenti pour gérer les personnes âgées. Et qui vous donne des points que votre mère ou votre père peut utiliser à l'autre bout du Japon. C'est en fait une monnaie. Toute communauté peut créer sa monnaie dès lors qu'il veut organiser son échange et sa cohésion.
Bonjour, et le ministre des Finances, la simplification des choses. Hein.
Mais non, parce que si vous voulez, vous passez votre temps à gérer des choses à plusieurs dimensions. Quand vous faites des spaghettis bolognaises, vous êtes habitué à raisonner sur un régime alimentaire qui comporte des protéines et des lipides, etc. Et c'est tellement évident que vous le faites de manière absolument naturelle et de manière totalement compréhensible. Donc il ne faut pas confondre l'inhabituel et le compliqué.
Penser différemment des questions anciennes et quotidiennes, est-ce nécessairement une affaire de spécialiste ? C'est aussi, c'est encore une forme d'impertinence que d'accepter, d'examiner des approches que des gens venus d'autres disciplines auraient pu avoir. Tant il est vrai que nous n'acceptons que les spécialistes capables d'inventer, alors que le progrès se fait essentiellement maintenant à coup d'innovation, c'est-à-dire par extension, par croisement de savoir. C'est le cas de Laurent Gilles, directeur d'études au département des sciences économiques et sociales à Télécom Paris Tech. Point de départ, la ville grandit, la ville grossit et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et puis bien sûr, nous exigeons une ville plus écolo, plus tranquille, silencieuse, moins polluée. La ville à la campagne, comme l'imaginait Alphonse Allais. Dès lors se pose la triviale question de la logistique urbaine, de son approvisionnement, Laurent Gilles.
L'idée, c'est qu'il faut être en rupture. Chaque époque a créé de nouveaux réseaux pour résoudre les problèmes auxquels elle était confrontée. On a créé, au fil des années, des décennies, on a créé de nouveaux réseaux urbains, on a créé le métro, on a créé les réseaux d'adduction d'eau, les réseaux d'eau usée, on a créé...
Le chauffage urbain.
Le chauffage urbain, le pneumatique à une certaine époque, puis les réseaux de téléphonie, les réseaux GSM depuis peu, les réseaux large bande. Et on ne se pose pas la question aujourd'hui de la création de nouveaux réseaux de logistique, de transport. Et il me semble que le moment est venu de se poser la question, en tout cas de l'étudier, de savoir si un réseau de logistique par petits containers dans des canalisations adaptées de petites dimensions ne pourrait pas prendre le relais sur de ce transport par véhicule léger. Et transporter, non pas 100%, parce qu'il restera des choses volumineuses ou des choses pondéreuses qui ne pourront pas passer par un tel réseau, mais en tout cas prendre 80-90% selon sa configuration de tout ce dont on a besoin pour s'approvisionner et de tous les déchets aussi que l'on rejette et qu'on a besoin d'évacuer. À la fois de nos résidences, mais également de nos locaux professionnels, de tout le système productif urbain qui rejette, bien évidemment, énormément de déchets.
Laurent Gilles, ça voudrait dire un réseau, ça voudrait dire de nouveaux tuyaux.
Ça voudrait dire de nouveaux tuyaux.
Ou canalisation.
Qu'ils soient enterrés. On pourrait aussi les imaginer, d'ailleurs, de façon aérienne. Ça donnerait un autre aspect à certaines parties de la ville. De la même façon qu'il y a un métro aérien qui n'est pas, tant s'en faut, désagréable à la vue. Donc on pourrait l'imaginer sous toutes ses formes, enterré, terrestre, aérien. Qui permettrait de desservir l'ensemble des quartiers avec des canalisations, des méthodes modernes, des technologies modernes de sustentation de ces petits containers qui circuleraient et qui desserviraient l'ensemble de la population.
Et on pourrait construire un nouveau réseau, seulement c'est quand on regarde une coupe du sous-sol de Paris, il y en a du monde, hein, entre le métro, le gaz, l'électricité, le téléphone, etc., etc., ça en fait.
Oui, alors bien évidemment, il faut regarder la faisabilité de tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est creusé à forte profondeur. Donc, on a des instruments de percement de tunnels, des tunneliers qui fonctionnent de façon quasi autonome à des profondeurs respectables. Donc, on pourrait passer en dessous de toutes les couches urbaines précédentes. On pourrait aussi mettre, dans certains cas, en aérien. Mais on peut estimer qu'un réseau de 1000 km permettrait une desserte de proximité. C'est-à-dire que chacun aurait pratiquement en bas de son immeuble ou au coin du pâté de maison de son immeuble aurait la capacité d'accéder à une de ces bornes ou colonnes Maurice dans lequel on pourrait faire apparaître ces mini-containers, charger, décharger ces containers.
Laurent Gilles, au moment où on parle de grands travaux pour relancer la machine, voilà une idée qui pourrait être lancée, ça coûterait très très cher.
Ça coûterait cher parce que toute infrastructure urbaine coûte cher, notamment quand on touche au génie civil. Mais on peut estimer en première analyse que ça coûterait quelques milliards d'euros. Alors ce sont des grosses sommes, 2, 4, 6 milliards d'euros. Ce sont des grosses sommes, mais évidemment rapportées à l'ampleur des bénéfices que cela apporterait au niveau de la gestion urbaine. Je pense que l'étude mérite en tout cas d'être effectuée. Et que rapporté au kilo transporté ou rapporté à l'habitant desservi, on obtient des choses qui sont bien inférieures au montant auquel on est habitué pour ce type de réseau, que ce soit la carte orange, par exemple, que ce soit la taxe des ordures ménagères sur sa feuille d'impôt. On se situe vraisemblablement dans des zones qui sont en deçà de ce que l'on paye aujourd'hui au titre de ces réseaux.
Et ça veut dire aussi que ça nous amènerait, nous, citadins, à changer une partie de nos modes de vie.
Oui, alors, on a peine à l'imaginer. On se dit, on remplace juste certains services de transport, de logistique, par une autre façon de les prester. En fait, on a le sentiment, chaque fois qu'on ouvre un nouveau réseau, il va se créer des usages. Et notamment, on peut penser que la communication interpersonnelle, c'est-à-dire le fait de s'envoyer entre amis, entre parents, entre enfants et parents, tout un tas de choses à travers de tels réseaux pourraient développer de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons d'habiter, de nouvelles façons de se côtoyer, un nouveau vécu au sein de la ville qu'on imagine sans doute peu à l'heure actuelle, mais l'expérience montre que tout nouveau réseau suscite des usages auxquels on ne pense pas a priori. Et il y aurait effectivement tout lieu de penser qu'un tel réseau susciterait beaucoup d'innovations en matière de vie urbaine.
Suite du dossier de l'été de Rue des Entrepreneurs sur France Inter. Ce matin, l'impertinence pour sortir du conformisme. Lydia Dès, Dominique Dambert.
Rémi Prudhomme, économiste, professeur émérite à Paris 12, ne discute pas du pourquoi et du combien de la réduction des rejets de CO2. Il estime qu'il n'a pas la compétence scientifique pour cela. Mais son impertinence est de s'interroger sur le comment. Il s'interroge sur la pertinence et la réelle efficacité des stratégies françaises et européennes. Et il propose d'autres approches. Rémi Prudhomme.
Ce qui est proposé, par exemple, dans le Grenelle de l'environnement, c'est des dépenses. Il y a une longue liste de choses à faire. On va créer 2000 km de lignes TGV, 2000 km de tramway. Ce sont des investissements.
Donc ce sont des bonnes dépenses, non ?
Non. Non, il n'y a aucune raison de croire que l'investissement c'est bien et la dépense en recherche c'est mal. On peut gaspiller beaucoup d'argent en faisant des investissements. Il y a quand même beaucoup de pays qui ont fait des éléphants blancs totalement inutiles. Mais en ce qui concerne l'emploi, si vous faites ces dépenses-là, créer des tramways par exemple, ou bien mieux isoler les maisons, ou bien construire des éoliennes, tout cela va en effet créer des emplois, mais comment est-ce que tout ça va être financé? Ou bien c'est financé par des dépenses supplémentaires des ménages, si vous devez dépenser de l'argent pour mieux isoler vos logements, c'est autant d'argent que vous n'aurez pas pour aller acheter des livres, aller en voyage ou acheter des légumes. Et donc ça va premièrement diminuer votre niveau de vie, ça peut être justifié par l'environnement justement. Mais du point de vue purement économique, les dépenses qui vont être éliminées sont aussi des dépenses qui correspondaient à des emplois. D'autres types de dépenses vont être financées par l'impôt. La moitié des dépenses de TGV, c'est quand même bien le contribuable qui les paye. Croire que la dépense publique crée de l'emploi, c'est absurde. L'argent public, c'est l'argent qui est pris dans la poche des individus ou des entreprises, ce qui revient à peu près au même. Et c'est de l'argent qui n'est pas dépensé, là encore une fois, dans les légumes, les meubles, les vacances, je ne sais pas quoi. Et donc, les emplois qui sont créés par la dépense publique, à ces emplois-là correspondent des emplois qui sont détruits par la diminution de la dépense privée. Donc, ce que l'on fait on modifie la structure des emplois, on modifie la structure de l'économie, dans un sens que l'on peut, qu'on a le droit de considérer désirable, ça je ne dis pas le contraire, mais croire que l'on a en plus une création d'emplois, ça n'est pas sérieux, c'est ne mettre l'accent que sur les emplois visibles et ignorer les emplois moins visibles qui vont être détruits.
Qu'est-ce qu'il y a à faire ?
Alors, eh bien, ce qu'il y a à faire, c'est de mener la lutte contre les rejets de CO2 là où il y a des gisements de diminution des rejets de CO2, c'est-à-dire dans les pays en développement qui sont ceux qui rejettent et qui vont rejeter beaucoup. Il faut que ce soit la Chine et l'Inde et le Brésil et les États-Unis qui réduisent leurs rejets de CO2. Parce que c'est là que ça coûtera pas très cher. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on, au niveau du globe tout entier, on arrivera à contrôler, même à réduire les rejets de CO2 à un coût acceptable. Mais cette stratégie se heurte à une grande difficulté, c'est que ces pays-là sont opposés à cette idée. Et quand on leur demande de réduire, ils disent non. Non, pas tout de suite. Et ils ont raison. Ils ont d'excellentes raisons. Ils en ont deux principales. La première, c'est de dire, vous, pays riches, vous avez rejeté du CO2 depuis un siècle et demi, sans la moindre contrainte, et maintenant vous voudriez nous empêcher d'en faire autant. C'est un argument auquel il n'y a rien à répondre, si ce n'est, vous avez raison, on a donc une dette à l'égard de la planète, et il est normal que cette dette, on la paye. C'est le premier argument. L'autre argument, en plus important, c'est de dire, nous on est pauvres, c'est-à-dire que prendre des mesures qui vont freiner notre développement, c'est beaucoup plus coûteux pour nous que ça l'est pour vous. Donc je pense qu'on ne pourra obtenir un accord de ces pays que si on leur donne beaucoup d'argent, que si on met en œuvre des transferts qui seront importants, mais qui compenseront pour ces pays-là, au moins en partie, le coût que imposera pour eux ce qu'on leur demandera pour réduire les rejets de CO2. Je pense que c'est l'un des grands défis, parce que c'est facile à dire, mais plus difficile à faire, bien entendu, surtout en ce moment.
Ne perdons pas la mémoire, et plutôt retrouvons-la. Il n'y a pas si longtemps, le territoire, en tant qu'espace de cohésion sociale, en tant qu'acteur économique, bien, il semble appartenir au passé. Aujourd'hui, changement de cap dans une économie de la connaissance, et face aux défis que l'on sait, c'est-à-dire les défis sociaux, les défis environnementaux, le territoire apparaît comme l'unité de base tant pour l'harmonie sociale que pour le développement économique. Il ne suffit pas de le dire, encore faut-il le démontrer, il faut le comprendre, et ça c'est encore de l'impertinence. Pierre Calam, auteur en particulier de l'essai sur l'économie, publié aux éditions Charles de Paulmeyer.
Il faut arrêter de considérer comme des évidences une théorie économique née du XVIIIe siècle et qui, parce qu'elle est une idéologie et pas une science, a pas bougé quand les sciences physiques ont connu déjà trois révolutions, si vous voulez. Et il faut cesser de prendre ce qu'on a sous les yeux comme une doxa, comme ce qu'on nous enseigne, ou les acteurs tels qu'ils sont, comme des acteurs de toute éternité. Dès lors que vous regardez les faits, les objectifs à atteindre, les choses sont absolument pas inconnues, elles se dessinent toutes seules. Le fait de dire à l'âge d'Internet, il est évident qu'il ne faut pas utiliser la même unité de compte pour l'énergie fossile d'un côté, pour le travail humain de l'autre, qu'il faut taxer ce qu'il faut économiser et ne pas taxer ce qu'il faut au contraire développer, c'est pas de l'inconnu, c'est du bon sens. Quand on dit...
Mais ce modèle, il n'est pas en activité, si j'ose dire encore.
Alors, faut pas confondre. Inconnu et non encore existant.
Non encore exploré.
Le grand problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est que face à une situation que tout le monde ne sait pas acceptable, mais où on se heurte en permanence à des modèles mentaux qui ne fonctionnent plus, à des acteurs, prenez la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, c'est la recette du pâté d'alouette. Un cheval d'efficacité économique et puis une alouette de cohésion sociale ou une alouette de protection environnementale. Pourquoi ? Parce que dans l'état de concurrence où ils sont, et elle est violente, malgré les ententes, malgré tout ce qu'on voudra, celui qui fait pas ça, il est remercié le lendemain. Mais dès lors que vous travaillez sur les faits, il est évident que les deux grands acteurs à venir, c'est les filières d'un côté et les territoires de l'autre. Tout ça, ça tombe sous le sens. Donc après, il faut se demander à quelles conditions le territoire peut devenir un acteur. Donc il faut l'analyser. Vous avez, face à une situation dont tout le monde voit bien qu'elle ne fonctionne plus, une émergence d'un très très grand nombre d'innovations, d'idées nouvelles, etc. Mon boulot, si je puis dire, c'est d'essayer de les combiner, de les mettre ensemble, de voir si on peut trouver une cohérence, et donc si on peut trouver une nouvelle approche de la monnaie, du territoire, des filières, de la question de la légitimité de l'exercice du pouvoir économique. Et à chaque fois, on s'aperçoit que c'est très simple. C'est inhabituel, mais c'est simple.
Spécialiste des questions qui dérangent, Michel Godet, depuis des décennies, scrute la France d'en haut et la France d'en bas. Il connaît aussi bien le système des élites, dont il s'agace souvent du modèle auto-reproducteur, que les villes, villages et campagnes de France, dont il ne tarit pas d'éloges sur leur capacité d'initiative réussie pour créer de l'activité économique et du lien social. Militant de la cause enthousiasme, il affirme dans la nouvelle édition de son livre « Le courage du bon sens », sous-titré « Pour construire l'avenir autrement » et c'est publié chez Odile Jacob, il affirme que la France a tort d'avoir peur de l'avenir, car la plupart des idées reçues s'avèrent infondées. Michel Godet est l'initiateur du prix de l'impertinence, organisé par le Cercle des entrepreneurs du futur et soutenu entre autres par le Centre national de l'entrepreneuriat, un institut du CNAM où Michel Godet enseigne la prospective qui, reconnaît-il, n'est pas une science exacte. Michel Godet.
Si j'étais conformiste mais conventionnel, je vous dirais, mais oui, vous avez raison. Hélas, je dois vous dire en toute immodestie, que je me suis moins souvent trompé que je n'ai eu raison. Parce que j'ai eu ce réflexe intellectuel de me méfier des idées dominantes. Et malheureusement, ou heureusement pour moi en tout cas, lorsque tout le monde est d'accord de manière trop forte, c'est suspect et ça mérite d'être regardé de plus près. On s'est ainsi planté sur la crise énergétique. En deux mots, on avait à la fois un diagnostic et une prescription. Pour retrouver la forte croissance, il fallait retrouver l'indépendance énergétique. Bon, on a eu l'indépendance énergétique en la France, au moins. C'est pas ça qui a expliqué la différence. Bon, on a cru aussi dans les nouvelles technologies. On s'est rendu compte que ça suffisait pas. Et que, on a cru aussi dans la taille critique des pays. La Finlande est très performante alors qu'elle est